Thécombe, fiancée. Tante Judith. Chapitre 1. La journée avait été très chaude, mais un vent léger s'étant levé vers le soir, chacun était sorti pour jouir de l'agréable fraîcheur de l'air. L'unique rue du village, presque déserte dans l'après-midi, présentait à ce moment un aspect assez animé. Devant chaque porte, sur le banc adossé à la muraille, de bonnes mamans tricotaient et causaient, tandis que les hommes, revêtus encore de leurs blouses de travail, se promenaient de long en large en fumant une pipe, ou bien, les mains derrière le dos, examinaient d'un air connaisseur les réparations qu'on terminait à l'écluse de la scierie. Au bord de l'étang, des gamins faisaient des ronds dans l'eau en y lançant des pierres, à la grande frayeur des canards. On entendait les cris d'autres enfants qui jouaient aux voleurs et se poursuivaient derrière les maisons. Des jeunes filles, têtes nues, passaient et repassaient en bandes de 6 ou 7, les bras enlacés, tandis que les garçons, groupés à l'angle de la rue, examinaient une carabine qui avait fait 30 cartons à la dernière abbaye. Quelques-uns étaient entrés au café pour commencer une partie de billard, et par les fenêtres ouvertes, on pouvait entendre le léger cliquetis des billes qui s'entrechoquaient et les exclamations des joueurs. Dans la cour de l'auberge, qui servait aussi de maison de commune et de bureau de poste, des servantes aux bras nus et en tablier blanc bavardaient avec un galant postillon, occupé à dételer ses chevaux. Monsieur Mathé, l'épicier, les écoutait de son jardin, situé de l'autre côté de la rue. Ce jardin était la merveille du village, surtout depuis qu'on y avait élevé une rocaille magnifique, sur laquelle on ne laissait point pousser de mauvaises herbes, et que panachait un petit jet d'eau, chef-d'œuvre hydraulique, qui jouait chaque dimanche. Madame Mathé venait de descendre avec un pliant et s'était installée dans le pittoresque voisinage de la susdite rocaille, persuadée, et non sans raison, qu'elle-même et son ombrelle bleue faisaient bien dans le paysage. « Victor, regarde donc ces nuages rouges, » dit-elle à son mari. « Et nos fenêtres, comme le soleil couchant les fait flamboyer. Il y a du rouge partout. » Partout, sur les pentes de la montagne, à la surface de l'étang, sur les murailles blanches des maisons, au sommet du clocher dont les tuiles jaunes et noires, disposées en chevrons, brillent d'un singulier éclat, partout la riche lumière du couchant verse à flot cette teinte de pourpre. Les bonnes figures des gens groupés sur la route ou près des portes en sont tout illuminées. Une fleur vermeille de jeunesse reparaît sur des joues flétries qui l'ont depuis longtemps perdue. Le gros épicier, dont le visage est en tout temps suffisamment coloré, brille véritablement comme un incendie. Et chacun remarque que le petit Georges de Chéramuse, le palot, comme on le nomme dans le village, a tout à fait bonne mine ce soir. « Il fera beau demain, » dit M. Mathé en réponse à la remarque de sa femme. « C'est heureux, car nous n'avons encore rentré que 6 chats du pré de l'Écrenaz et il faudra travailler d'une aube à l'autre pour venir à bout du reste. Bonsoir, mademoiselle Élise. » Une petite personne à l'air éveillé trottinait au milieu de la rue, relevant d'une main sa robe pour la garantir de la poussière et portant de l'autre un diminutif de machine à coudre. « Quel beau soir !» dit-elle en s'approchant de la barrière du jardin. « Vous allez bien, Madame Mathé ?»« Mais oui, et vous ? Entrez dans un instant, Mademoiselle Élise. Vous nous raconterez les nouveaux. »« Oh, merci, je n'ai pas le temps. 5 robes à finir ce soir, Madame, et de ces plissés qui sont longs comme un jour sans pain, quoique ma petite machine fasse l'ouvrage de 4 ouvrières. Pour ce qui est des nouveaux, je ne sais pas grand-chose aujourd'hui. » « Avez-vous vu la jeune dame qui est arrivée ce matin par la poste des Verrières, blanche comme un linge et maigre? Si l'eau de la bonne fontaine la remonte, celle-là, on pourra dire qu'il se fait encore des miracles. »« C'est une personne extrêmement bien, » dit Madame Mathé avec une certaine emphase. « Bien, avec son air de n'avoir pas 3 gouttes de sang dans le corps. » « Je veux dire que c'est une personne très distinguée. » Elle loge chez nous parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel et nous avons en haut une jolie chambre qui ne sert à personne. Ah, voilà, et c'est une dame des Verrières ? Non, d'Yverdon. Elle a un peignoir avec une traîne longue de 2 aunes. Je l'ai vu ce soir quand je lui ai monté son thé dans sa chambre. Il lui faut du thé, vous comprenez, parce qu'elle parle très bien anglais. » C'est clair, dit la petite couturière, qui parut trouver la conséquence toute logique. Eh bien, vous pourrez avertir cette dame d'être modérée avec l'eau. On dit qu'elle n'est pas en scène cette année. Il y a une de ces buveuses qu'on a ramenée bien malade de la Bonne Fontaine ce matin. Vous savez, cette petite blonde qui avait l'air de n'être qu'écrite. Son médecin lui avait conseillé d'aller toujours en augmentant, de sorte qu'aujourd'hui, elle est arrivée à 10 verres et que c'était un peu trop pour sa constitution. On a télégraphié à ses parents que les eaux ne lui convenaient pas et qu'il fallait venir la chercher. « Je crois bien, » fit M. Mathé d'un ton mécontent. « On est des gens, après tout, et non pas des grenouilles. Si une petite demoiselle se noie l'estomac en buvant toute sa neuvaine d'un coup, la Bonne Fontaine n'en peut, mais... »« C'est sûr, » répondit Mlle Élise en riant. « Mais je m'oublie à bavarder. Bien le bonsoir. » Cependant, comme la couturière passait devant la maison du boulanger, on la salua de la même question. « Eh bien, Mlle Élise, quoi de nouveau ?» Et elle consentit à s'asseoir un instant sur le banc pour faire un bout de conversation. « Juste 5 minutes, » dit-elle en posant sa machine à côté d'elle. « J'ai tant d'ouvrages que je ne sais plus où donner de la tête. Cette robe à finir pour demain. Vous ne le croiriez pas, Madame Ramuse. C'est comme je viens de le dire là-bas à Madame Mathé. Avec ces garnitures compliquées qu'on porte aujourd'hui, il faudrait des ouvrières à vapeur. À propos, savez-vous que la dame de ce matin loge chez eux ?
Chez Victor Mathé ?
Oui, il paraît que c'est une Anglaise d'Yverdon. Elle a des peignoirs avec des queues comme d'ici aux taillères. Vous me croirez si vous voulez, Madame Ramuse, mais sans moi, le village ne saurait pas la moitié de ce qui se passe. La Gazette a bon marché, dit alors une dame d'un certain âge qui n'avait point encore pris part à la conversation. « On assure que vous avez 2 langues, Mademoiselle Élise. » Cette bienveillante communication fut accompagnée du plus aimable sourire. La petite couturière rougit d'abord, puis se redressa et allait lancer une réplique assez vive lorsque le boulanger fit diversion en s'avançant pour saluer ces dames.
« Ne mets pas ta pipe dans ta poche !» s'écria sa femme. « Tu vas t'incendier comme l'autre jour !»«
On s'habitue à tout !» répondit-il flegmatiquement en retirant l'objet dangereux des profondeurs où il avait plongé. « Savez-vous avec qui je viens de faire un bout de causette, Madame Fèvre ? Avec votre nièce Julie. Quelle charmante fille, toujours gaie et de bonne humeur !»« On ne la croirait pas de la famille !» ajouta-t-il en aparté.
« C'est vrai qu'elle est aimable, » répondit Madame Fèvre d'une voix qui semblait avoir infusé 7 jours dans du vinaigre. « Causante et piquante, elle l'est aussi. Sa langue ne se rouillera pas faute d'usage. Oh, certainement, c'est une excellente fille. »
« On sait bien que vous la chérissez, » dit la boulangère en lançant un malin coup d'œil à son mari.
« Pour le moins, autant que vous aimez votre Georges, » répliqua la dame, qui se leva d'un air majestueux et s'éloigna après avoir décoché cette flèche du part. Il était notoire dans le village que la boulangère ne pouvait souffrir ce malheureux Georges, le fils de son mari, et que le pauvre enfant était un perpétuel sujet de discorde dans le ménage. Madame Ramuse devint rouge de dépit, et, tournant subitement Allègre, fit observer qu'au lieu de rester ainsi à bavarder sur le seuil des portes, chacun ferait mieux de rentrer chez soi. Ce qu'entendant, Mademoiselle Élise s'esquiva au plus vite.
« Quelle femme que cette Judith Fèvre !» pensait-elle en s'éloignant. « Elle ferait battre 4 murailles et sans avoir l'air d'y toucher encore. »
« Élise !» dit tout à coup derrière elle une voix d'un timbre fort agréable. « N'aurais-tu point vu mon fiancé, par hasard ? Je le cherche comme une épingle depuis 1 heure. »«
C'est toi, Julie !» exclama la petite couturière en se retournant. « Il y a au moins 6 semaines que je ne t'ai vue. Tu t'enterres dans ton pré Bertou. Pour ce qui est de ton fiancé, je serai moi-même bien aise de l'apercevoir, car ma machine à coudre s'est cotée cet après-midi, et il n'y a que lui dans tout le village qui ait assez d'esprit pour la remettre en état quand elle a ses quintes. « Si tu le trouves, dis-lui qu'il me rendrait service en passant chez nous. Bonsoir. »
Est-ce qu'on pourrait vous aider, mademoiselle Dumont ? Cria d'une porte voisine un vieux bonhomme qui avait entendu le précédent colloque. Je porterai bien tous vos paquets pour le plaisir d'être avec une gent de bonne humeur comme vous.
C'est que je suis une gent de mauvaise humeur, au contraire, ce soir, répondit la jeune personne avec un sourire qui démentait ses paroles. Je ne peux pas imaginer où Julien Robert s'est niché. Je l'ai cherché partout.
Me voici, cria précipitamment quelqu'un non loin d'elle.
Julie tourna vivement la tête. Un jeune homme de 25 ans environ, très rouge et tout essoufflé, arrivait à grandes enjambées.
« Est-ce que je t'ai retardé ? » demanda-t-il d'une voix haletante.
« Qu'est-ce que cela fait ? Tu ne devrais pas courir jusqu'à te donner de telles palpitations. C'est très mauvais pour toi. Marchons tranquillement à présent. Je n'ai plus qu'à passer chez l'épicier. Bonsoir, François. » Quand vous aurez le temps de venir jusqu'au Pré-Berthoux, vous savez que vous faites toujours plaisir à l'oncle.
Pour ce qui est d'une belle paire, c'est une belle paire, murmura François en les regardant s'éloigner. Et avec ça, ils s'entendent comme les doigts de la main. Ça fait de la peine, comme tout, de voir que la vie leur est si contraire et qu'ils ne viennent pas à bout de se marier. Le vieux François n'était pas seul de son avis. Et parmi les gens que les fiancés saluaient en passant, il en était peu qui ne les suivissent d'un regard de sympathie. Ce n'était pas une beauté que Julie, mais son visage avait la plus agréable expression qu'on pût voir. Le contentement d'esprit brillait dans ses yeux, souriait sur ses lèvres, se trahissait même dans sa démarche élastique et vive. Une âme saine dans un corps sain, c'est ainsi qu'on eût pu la définir. Son teint était clair, ses cheveux brillants, sa voix bien timbrée, tous ses mouvements rapides et précis. Sa personne entière avait quelque chose d'énergique et de joyeux. Elle était gracieuse aussi, non pas de cette molle langueur qu'on prend trop souvent pour de la grâce et qui agace à la longue, mais par la justesse des proportions, la sûreté des mouvements, la saine harmonie de l'ensemble. Elle était grande et svelte, sa robe de percale lui allait bien. Un ruban bleu passé sous son col faisait valoir son teint légèrement animé. Ses épaules rondes et bien faites étaient à demi couvertes d'un petit fichu négligemment noué. Tout en elle était souple, aisé. On voyait qu'elle était heureuse de vivre et d'agir. Son fiancé lui ressemblait peu. Ne le faut-il pas pour qu'on s'aime ? Il était plus grand qu'elle et vigoureusement bâti, mais lent et presque lourd dans son allure. Il portait la tête en avant et il avait les épaules légèrement affaissées, comme cela se voit souvent chez les horlogers, obligés de se pencher beaucoup sur leur ouvrage. Sa figure était très régulière, mais il y manquait l'éclair de gaieté qui donnait tant de charme à celle de Julie. Le regard était soucieux, toute l'expression un peu morne. Cependant, il y avait beaucoup de bonté et d'honnêteté dans ce visage auquel on aurait souhaité peut-être un peu plus de vivacité intellectuelle.
« D'où venais-tu donc ? » demanda Julie. « Jamais je ne t'ai vue aussi échauffée. »
La vieille Henriette des Varaudes m'avait promis une bouture de ses œillets jaunes que tu as trouvé beau l'autre dimanche et j'étais allée la chercher. Quand je suis rentrée, j'ai appris que tu étais venue au village et j'ai couru comme un fou pour ne pas te manquer.
Merci bien, on n'a jamais vu un fiancé aussi attentif que toi. Mais si je m'avisais de trouver beau le coq de l'église du Locle, irais-tu le décrocher pour me l'offrir ?
Peut-être bien, répondit-il avec un sourire qui illumina son visage. Pour le moment, qu'est-ce que tu m'ordonnes ?
Je ne t'ordonne jamais rien. « Mais si tu m'aidais à porter mes emplettes à la maison, tu me rendrais service. »«
Tu as l'air fatigué, » continua-t-elle en le regardant avec sollicitude.
« Je gage que tu as fait de nouveaux excès de travail cette semaine. »«
J'ai été à mon établi tous les jours, de 5 heures du matin à 10 heures du soir. Tu ne pourras pas m'en empêcher, Julie. »«
Je le vois bien, » répondit-elle tristement. « Tu as le teint gris, les yeux cernés et tu as maigri depuis ce printemps. »«
Je me reposerai plus tard quand nous serons mariés, » dit-il avec une sorte de brusquerie. « Il me semble parfois, Julie, que cela ne te ferait rien de rester fiancée éternellement. »«
Ne crois pas cela, » répondit-elle avec vivacité. « Je me garde seulement de penser trop à notre futur ménage, de crainte de perdre patience. Quand tu reviens de la Châtagne et que tu aperçois notre clocher au bout de cette longue, longue route, tu crois être bientôt arrivé. Mais tu marches, et le clocher est toujours aussi éloigné. Alors, tu trouves le chemin ennuyeux et tu t'impatientes. Je ne veux pas m'impatienter, et c'est pourquoi je ne regarde pas trop souvent au but.
Eh bien, moi, dit Julien, j'ai besoin d'y regarder. Quand je suis le soir tout seul à mon établi, je me représente le temps où tu travailleras près de moi, je te vois aller et venir dans notre petit ménage où nous serons si bien nous deux. Je t'appelle ma femme, j'entends dans mon esprit le son de ta voix. Alors, vois-tu, cela me donne un tel courage que je ne sens plus le sommeil et que je pourrai travailler jusqu'au matin pour gagner quelques francs de plus et avancer peut-être d'une semaine cet heureux jour.
« Je ne te croyais pas autant d'imagination, » dit Julie, moitié riant, moitié émue. « Rappelle-toi que tout est allé pour nous, bien mieux que nous n'espérions au commencement. Tu n'as jamais manqué d'ouvrage, mes frères et sœurs ont poussé comme des morilles. Les voilà bientôt tous en apprentissage et je pourrai penser à mon trousseau. Tâche de voir le beau côté des choses, mon Julien. »«
Dépêchez-vous, mademoiselle Dumont !» cria un homme, debout sur un char, de l'autre côté de la rue. Il portait une blouse de cotonnade rouge et, à son côté, pendait, attaché à un ceinturon de cuir, un long silex dont il se servait pour aiguiser son couteau de boucher. C'était Max, du Locle, qu'on voyait arriver chaque semaine, avec un assortiment de pièces de bœuf haute nouveauté, comme il disait lui-même. Il n'y avait pas de boucherie dans le village et les amateurs du pot-au-feu étaient obligés de recourir à Max malgré les plaisanteries parfois salées dont il assaisonnait sa viande.
« Si vous n'étiez pas la plus gentille fille que je connaisse, dit ce jovial personnage, je ne vous aurais pas attendu 5 minutes. En vous voyant venir tout piano du bout de la rue, je commençais à m'impatienter. Mais quand on est avec son promis, on fait durer le plaisir, n'est-ce pas ?»
« Vous, dites donc, » continua-t-il en lançant un malin coup d'œil à Julien, « qu'est-ce que c'est que ces manières ?»«
Quoi ?» demanda Julien étonné.
« Avez-vous juré de mourir fiancé ? Comment, vous laissez languir pendant 3 ans une charmante demoiselle avant d'en faire votre épouse ? Coquin que vous êtes, va ! On m'a assuré que vos papiers n'étaient pas en règle, ou bien que votre commune ne voulait pas les lâcher, parce que vous êtes catholique ou mormon ou quelque chose comme ça.
Ce n'est pas vrai, dit Julien avec énergie.
Le jovial boucher éclata de rire.
Il avale ça que c'est une bénédiction.
Fais donc attention, dit Julie un peu vexée. Tu vois bien que M. Max veut te taquiner. Chacun sait qu'il n'est pas mort de son premier mensonge.
Eh bien, elle est polie, celle-là, dit Max en feignant de vouloir pincer la joue de Julie.
Attendez que je vous tienne, Crispine.
Ça n'empêche pas que lorsque vous aurez assez de ce garçon-là, vous n'aurez qu'à faire signe et je vous prends si je suis vacant. N'allez pas le dire à ma femme.
Assez de bêtises, monsieur Max, dit Julie, remarquant l'air contrarié de Julien. La nuit va venir. Donnez-moi vite un beau petit morceau de bœuf, comme celui de l'autre semaine. C'est seulement pour l'oncle, ajouta-t-elle en se tournant vers son fiancé. Moi et les enfants, nous n'avons pas besoin de viande.
Monsieur Max dit près d'eux une voix trop douce. Auriez-vous une cervelle, par hasard ?
Je m'en flatte, madame.
Une cervelle de veau, je veux dire, reprit cette nouvelle cliente, l'aimable Judith Fèvre.
Non, madame.
« Donnez-moi le foie, alors. »«
Je viens de le vendre, madame, et je n'ai pas encore pu obliger les veaux à en avoir 2. »«
Vous avez tort de mettre ma tante en colère, » dit Julie, tandis que la dame s'en allait en jetant au mauvais plaisant un regard venimeux.
« Elle me met en bouillon avec ses airs doux, » répondit-il brusquement. « Quand je pense comme elle a mené mon pauvre ami Fèvre, cette sainte Nitouche. » 2 mois après son mariage, ce n'était déjà plus le même gaillard, et il me disait « Max, on devrait prendre les femmes à laisser, crois-moi seulement. » C'était bien mon avis, soit dit sans vous offenser, mademoiselle Dumont. Vous, on sait que vous êtes au titre, contrôlé et poinçonné, mais elles ne sont pas toutes de ce calibre, mon pauvre Fèvre l'a bien vu. Alors, quand elle vient me dire avec sa voix de miel, « Avez-vous une cervelle, monsieur Max ?» il est sûr que la mauvaise réponse arrive avant la bonne. Enfin, pour en revenir à notre bœuf, et non pas à nos moutons, comme il y en a qui disent, « Voilà votre morceau, mademoiselle Dumont, et un bel os à moelle qui ira par-dessus le marché, puisque c'est pour faire du bouillon à l'oncle. Saluez-le de ma part, ce bon vieux !» Lorsque Julie eut enfin pris congé du prolixe boucher, elle et Julien, chargés de paquets, se dirigèrent vers le sentier qui traverse les tourbières et conduit au Pré Berthoux. Le jeune homme était très silencieux. Julie, occupée à additionner mentalement le coût de ses diverses emplettes, n'y fit pas grande attention d'abord, mais quand, ses calculs terminés, elle leva les yeux vers Julien, son air sombre la frappa. « Qu'as-tu ? » demanda-t-elle, anxieuse. « N'es-tu pas bien ?»« Très bien, » répondit-il d'un ton bref. « Alors, pourquoi cette mine d'enterrement ? Parle, tu m'inquiètes. » « N'as-tu donc pas entendu, s'écria-t-il, le reproche que ce Max m'a lancé, et devant toi encore ? En parlant de papiers qui n'étaient pas en règle, il faisait allusion aux dettes de mon père, je l'ai bien compris. À quoi sert-il que je m'extermine à travailler pour les payer si le premier venu a le droit de m'en faire honte ? Et osez te dire, quand vous aurez assez de ce garçon-là, suis-je donc un fiancé si méprisable que les gens ne puissent pas comprendre que tu m'aies voulu ? Julie sourit. « Mon cher Julien, dit-elle, tu es le plus brave garçon de la terre et je ne te connais qu'un défaut, c'est de ne pas savoir prendre les choses par le bon bout. Monsieur Max a voulu rire. S'il sait que ton père a laissé des dettes, il doit savoir aussi que tu les paies et cela te fait honneur. Quant au reste, ici Julie haussa légèrement les épaules, si j'ai dit oui quand tu m'as voulu pour ta femme, c'est que je t'aimais mieux que tous les autres apparemment, et je n'ai pas demandé aux gens leur avis. Ah, voici nos petits sauvages !» Cette exclamation s'adressait à trois enfants qui arrivaient en bondissant et firent mine aussitôt de fureter dans les paniers, soupçonnant peut-être là quelques friandises à leur adresse. « Allons, qu'on dise bonsoir convenablement. Alfred, donne la main à Monsieur Robert. Tu ne l'as pas encore remercié d'avoir accommodé ta brouette. » « Ah, Bernard, ne fourre pas tes doigts dans cette corbeille, petit indiscret. Où est l'oncle Marie ?»« Sur le banc du jardin, il vous attend. » La maison devant laquelle on arrivait était large et basse, fraîchement blanchie à la chaux et couverte d'un toit en beau bardeau luisant. Une petite galerie, dont la balustrade était taillée à jour, en cœur et en trèfle, s'étendait le long de la façade, au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée. Le large avant-toit l'abritait complètement et en faisait une sorte de promenoir où l'on n'avait à redouter ni le vent ni la pluie. D'énormes touffes d'œillets débordant de leur peau la décoraient de leurs vertes girandoles et de leurs gerbes de fleurs pourpres qui sentaient le girofle. Il y avait deux portes à la maison, car deux familles y habitaient, mais un seul banc, car on s'entendait bien et l'on prenait le frais ensemble, le soir, en causant. Un seul jardinet aussi, car Madame Blanc, la femme du paysan qui tenait le domaine, n'appréciait en fait d'horticulture que les choux de son closet et abandonnait volontiers à Julie le soin de ses pensées, des carentins et des dahlias. Du côté de Bise, la muraille était en pierre et percée de deux étroites ouvertures qui étaient censées éclairer les tables. Un tronc creusé, l'abreuvoir aux vaches, était placé au pied de cette muraille. De l'autre côté de la maison était la citerne, qu'on appelle chez nous la cuve, un peu exhaussée au-dessus du pré, solidement cimentée à l'intérieur et à laquelle on montait par trois marches d'escalier. L'eau du toit y coulait par un chaînon en bois. À côté se trouvait le jardin potager, entouré d'un mur en pierre sèche toute moussue, au-dessus duquel de hauts groseilliers étendaient leurs branches chargées de fruits encore verts. La transparence du crépuscule laissait distinguer tous les détails de ce simple tableau, les embellissant de la teinte douce qui lui est propre. « Bonsoir, mes enfants, » dit un vieillard assis sur le banc près de la porte. « Il y a longtemps que j'espérais vous voir venir. Vous n'avez pas eu de malheur en chemin ? Mais non, cher oncle, répondit Julie. Êtes-vous donc resté ici, exprès pour nous attendre? L'air commence à être trop frais pour vous, nous ferons mieux de rentrer.
Julie n'aimait pas beaucoup les longues causeries au crépuscule. Ses mains s'impatientaient de rester inactives. Aussi s'empressa-t-elle, à peine entrée dans la chambre, d'allumer la grosse lampe modérateur qui prouvait que, même en ce hameau reculé, on avait sa part des lumières du siècle. L'oncle semblait fatigué. Il s'appuya dans son vieux fauteuil à coussin rouge et prit peu de part à la conversation. Mais son regard s'arrêtait avec tendresse sur toutes ces jeunes têtes groupées autour de la table ronde. Il avait pour ses orphelins la sollicitude d'un père. Depuis plusieurs années qu'il était venu s'établir chez sa nièce pour la seconder dans la tâche difficile que la mort de ses parents lui avait laissée, il avait partagé tous les soucis et toutes les joies de la petite famille. Julie avait trouvé en lui un guide pour son inexpérience, un conseiller ferme et sûr dans toutes ses perplexités. En échange, elle réchauffait le cœur du vieillard par l'éclat de sa vive jeunesse et le rayonnement de sa gaieté. C'était pour la jeune fille le plus beau moment de la semaine, cette heure paisible où, tous les enfants couchés, elle venait s'asseoir entre son oncle et son fiancé pour s'entretenir avec eux des menus incidents du jour et, parfois, de sujets plus graves. Car l'oncle David avait, sinon vu beaucoup de choses, du moins bien vu un certain nombre de choses pendant sa longue carrière, et Julien se plaisait à l'interroger. Mais ce soir, la douce harmonie de ce trio devait être troublée par une note discordante. Au moment où l'entretien devenait intime, on heurta à la porte.
« Qui vient nous déranger ?» fit Julie avec une petite moue.
« Ce n'est que moi !» répondit la voix pointue de Madame Judith Fèvre.
« C'est bien suffisant. Entrez, tante, s'il vous plaît. »
En réalité, cette parenté était assez problématique. Madame Fèvre n'était appelée tante dans la famille que parce qu'elle avait épousé en première noce un frère de l'oncle David qui était mort après 2 ans de mariage. L'entrée de la dame parut jeter un froid sur la petite société. Elle-même n'eut pas l'air de le remarquer.
« Bonsoir, beau-frère, » dit-elle en tendant la main à l'oncle David. « Comment allez-vous ? »
« Bien joliment. Et vous ?»«
Oh, moi, toujours de même !» répondit-elle d'un ton dolent.
« Allons, tant mieux !» fit le bon oncle, non sans une légère pointe de malice. Il n'aimait pas qu'on se lamentât toujours.
« Asseyez-vous, » dit Julie. « Comme vous voyez, nous étions occupés à ne pas faire grand-chose.
« Je suis bien aise de voir que tu t'accordes aussi de temps en temps un quart d'heure de loisir, tout comme une personne ordinaire. »«
Je n'ai jamais dit le contraire, tante. Vous est-il rentré de l'ouvrage cette semaine ?»«
Très peu. Je n'ai plus que 6 remontages sur mon établi. » »«
Après cela, il en viendra 6 autres, » dit l'oncle d'un ton encourageant.
« Il faut bien l'espérer, » répondit-elle avec aigreur. « Autrement, je n'aurai plus qu'à m'adresser à la commune. Après ça, par le temps qui court, il faut être bien content si on gagne son eau. »«
Vous êtes un peu gringe ce soir, Madame Fèvre, » dit Julien avec un parfait sans-gêne. On eût pu croire qu'elle allait le mordre tout d'abord, mais elle changea subitement d'expression.
« Gringe, non, mais bien tourmenté. Ma vue baisse et puis l'ouvrage manque. » Il faut courir 36 comptoirs pour obtenir un misérable carton. Et les prix sont tombés si bas, ce n'est plus le bon temps, beau frère.
Là, non, répondit l'oncle avec un soupir. Quand je pense à l'année 36, ce n'était pas par douzaine, c'était par grosse qu'on me commandait des chaînes de barillets. J'avais 4 apprentis et nous travaillions tout le jour comme des nègres, ne nous reposant qu'un moment à midi. Ma femme m'apportait une assiette de soupe sur mon établi, je posais les bruxelles pour prendre la cuillère, j'avalais ça en 2 minutes et c'était tout mon dîner. On ne pouvait souffler que le dimanche. Quant à ça, continua l'oncle avec une légitime satisfaction, chez moi, on ne bronchait pas sur le 4e commandement. Tu travailleras 6 jours et le 7e, mettez-moi les outils dans le tiroir. Ça ne m'a pas empêché de faire mes affaires aussi bien qu'un autre et d'économiser pour mes vieux jours.
Oui, dans ce temps, on pouvait encore cacher toutes les années quelques écus dans un vieux bas, soupira tante Judith.
Ou les placer à la caisse d'épargne, ce qui vaut encore mieux. Justement, en cette année 36, j'avais mis de côté 200 écus de Brabant et j'ai continué dès lors à arrondir la pelote. Alors, quand la vue commence à s'obscurcir et la main à trembler, on n'est pas à la charge de ses neveux. Mais, au contraire, continua-t-il, en regardant avec affection le jeune couple, on a la joie de penser qu'on leur laissera quelque chose.
Comme Justin Vautier vient de faire, interrompit tante Judith.
L'oncle parut mécontent de la comparaison et fronça le sourcil.
Ses neveux ne valent pas les miens, dit-il sévèrement. À mon avis, Justin aurait mieux fait de léguer ses 50 000 francs à la commune plutôt que de les laisser à ce vaurien d'Alfred qui ne lui a jamais donné que du tourment.
Mais il disait que le sang, c'est toujours le sang et qu'il y a du péché à déshériter ses proches.
Faut-il donc récompenser l'ingratitude ? Ah, si j'avais été à la place de ce pauvre Justin ! Mais Dieu soit béni, mes neveux à moi ne m'ont jamais fait que du plaisir.
Vous avez raison, bien raison, beau-frère, murmura tante Judith en baissant les yeux.
Était-ce pour cacher la singulière étincelle qui y brillait ?
Il faut pourtant penser à partir, dit Julien au bout d'un moment. Revenez-vous avec moi, madame Fèvre.
Écoute, dit Julie en posant sa main sur le bras du jeune homme, promets-moi que tu ne vas pas te remettre à l'établi. Passé 10 heures, les gens qui veulent devenir vieux ne travaillent plus.
Mais je n'ai pas fini ma tâche.
Tu la finiras demain. Allons, promets.
Si tu veux, mais nous nous marierons un jour plus tard.
Quel garçon ! Fit Julie en riant. C'est un calendrier.
Julie est moins pressée que vous, remarqua madame Judith en se tournant vers Julien.
Puis elle le guigna sournoisement pour voir l'effet que son observation allait produire.
Beaucoup moins, je le crains, répondit-il d'un air sombre. Et un nuage passa sur son front.
Eh bien, n'a-t-elle pas raison ? Insinua doucement la bonne tante. Il est toujours assez tôt pour se mettre sur les bras les soucis du ménage.
Oh, des soucis ! Fit Julie en remarquant avec inquiétude l'impression que produisaient sur son fiancé les paroles de la bonne dame.
Des soucis ? J'en ai bien eu ma part jusqu'à présent et je ne pourrai que gagner en changer.
Mais à peine avait-elle fini sa phrase qu'elle se mordit la langue. L'oncle était devenu très grave à son tour.
Ma pauvre Julie, dit-il d'un air attristé, c'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, tu as eu bien de la peine. Mais tu ne te plaignais jamais et je ne te croyais pas si pressée de nous quitter.
Mais je ne suis pas pressée du tout, s'écria-t-elle.
C'est bien ce que je disais, murmura Julien dans son coin.
Et de nouveau, tante Judith baissa les yeux, mais un certain sourire tressaillait sur ses lèvres et semblait dire « Tirez-vous de là si vous pouvez !»«
Bonsoir, » dit enfin Julien, rompant le silence embarrassant qui avait suivi ce colloque. « Venez-vous, madame Fèvre ?»
Celle-ci mettait son chapeau avec l'air satisfait d'une personne qui a accompli sa tâche de la journée. Des pierres qu'elle avait lancées dans le jardin d'autrui, chacune avait porté coup et elle prenait ses mesures pour en jeter d'autres sous peu.
« Je vous accompagnerai un bout de chemin, » dit Julie. « Il fait si beau ce soir que je serai bien aise de sortir un peu. »
La nuit était splendide en effet. La pure lumière de la lune s'épanchait dans la vallée, éclairant d'une manière fantastique la bande de brouillard déchiquetée et vaporeuse qui s'étendait sur les tourbières et sur le lac. La masse sombre des montagnes se détachait du ciel transparent et l'on entendait tout le long des pâturages ce bruit harmonieux de clochettes qui, durant l'été, ne se tait ni jour ni nuit.
Tandis que madame Fèvre s'attardait encore sur le seuil, prodiguant à l'oncle des conseils pleins de sympathie au sujet de ses modestes somas, Julie avait pris les devants et marcha quelques minutes silencieuse à côté de son fiancé. Puis, tout à coup, elle leva vers lui ses yeux pleins de franchise et dit d'un ton très sérieux et très décidé
« Julien, il faut que cela finisse. Tu me fais la vie dure par tes reproches injustes et tes soupçons. Je t'aime et je serai heureuse de devenir ta femme. » Tâche d'avoir en moi autant de confiance que j'en ai en toi. Ne me réponds rien maintenant, mais réfléchis-y bien jusqu'à ce que nous nous revoyions. Adieu. » Elle lui tendit la main, puis, ayant pris congé de tante Judith, elle s'éloigna le cœur gros. Depuis 3 ans de fiançailles, c'était leur premier différend. Jusqu'ici, le tact et la bonne humeur de Julie avaient suffi à écarter les légers nuages que faisait naître le caractère chagrin de son fiancé. Mais depuis quelque temps, ce fatal penchant à la jalousie n'avait fait que s'accroître. « Si Julien ne change pas, pensait la jeune fille, notre vie à tous deux deviendra insupportable. Il s'offusque de tout, il sent des épines partout. Pauvre Julien !»« J'espère, ma fille, que tu vas bientôt te reposer, » dit l'oncle en voyant sa nièce rentrer. « Pas encore. J'ai découvert que Charles a fait à sa chaussette un trou où je passerai le poing. Il a un don tout particulier pour cela, le pauvre garçon. Allez bravement dormir, oncle. Bonne nuit. » Pendant que la vaillante fille, toujours debout la première et la dernière, tirait l'aiguille en pensant à son Julien, tante Judith, de retour chez elle, arpentait à grands pas son petit logement. « Il a 800 francs de rente, » disait-elle dans son monologue agité. « Je le tiens de Julie. Aux quatre, ça fait un capital de 20 000 francs. Après sa mort, ils seront 5 pour le partage. 3 ou 4 misérables 1 000 francs à chacun, quel bien cela leur fera-t-il? Il vaut beaucoup mieux qu'une seule personne en profite pour se donner un peu de bon temps. Après moi, ils l'auront. Je ne voudrais pas leur faire tort d'un centime. Après moi, ils l'auront. »